Ils n'avaient aucune idée du comment, mais ils avaient confiance. Donc, ça commence comme ça. Et donc, on voit très bien ces deux périodes complètement différentes, avec deux noms d'HM différents. Kel Shakai d'un côté, HM de l'autre. Et les noms divins, c'est des façons de gouverner le monde différentes. Alors, le texte dit, je vous ai dit, « Ve Yaakov vanav yarad mitzraima » et le texte dit, effectivement, « Va yered » il est descendu en Égypte. On dit, il est descendu, Yaakov est descendu en Égypte, « Anus alpia dibour » il était contraint, « Anus », contraint par Hachem. Ça veut dire que, en réalité, il descend en Égypte. A priori, il y est obligé parce que, à cause de la famine. Il y a la famine en Canaan, et il descend en Égypte pour avoir à manger. Je n'ai pas dit, c'est un point quand même très important, que cette haine que les autres peuples ont à l'égard du peuple juif, en vérité, c'est quelque chose qui nous accompagne dans toute notre histoire. Et c'est ce que nous disons, Vehi chez Amda, la promesse qu'Hachem a faite à Abraham. Je m'occuperai de vous, je vous sauverai, Vehi chez Amda. C'est cette promesse, chez Amda, la voté une nouvelle anneau. Cette promesse, elle accompagne nos ancêtres, elle nous a accompagnés. Chez le Echad Bilvad, Amadolénul Khalotin. Il n'y a pas eu seulement un seul bonhomme, un paro, qui a voulu nous détruire. Dans toutes les générations, Omdim Aleinul Khalotin. Dans toutes les générations, ils sont au présent. Ils sont en train d'essayer de nous détruire. Ve'akadosh Baruch Hu matzileinu mi'adam. Ve'akadosh Baruch Hu nous sauve de leurs mains. En fait. Alors, je vous ai dit, tout le récit se fait à matzot découverte. Mais quand on dit ve'ish et amda, on prend le vers de le deuxième kos, puisque tout le récit va se faire sur le deuxième kos, le deuxième vers de vin. On le prend en main. Et parce qu'on prend le vin en main, alors pendant ce temps-là, on couvre les matzot. On dit veillez chez Amda, et à ce moment-là, on repose, après avoir dit qu'Hachem nous sauve, on repose le kos et on découvre de nouveau les matzot pour la suite du récit. Et alors, on nous dit, voilà, le pire que Paro, c'est Ulmad, Mabikesh, Lavana, Rami, Lassot, Yaakov, Abinu. Paro, il a seulement voulu tuer les garçons. Lavan, il voulait tout détruire. Arami, Oved, Avi. L'araméen, c'est-à-dire Lavan, donc, Oved, Avi, c'est pas il a voulu détruire. Il veut en permanence. Il y a du Lavan dans le monde. Il y a du Lavan qui est toujours à l'œuvre pour nous détruire. Il est descendu, Yaakov, en Égypte. D'accord, Vayered. Ensuite, c'est marqué Vayagor Sham Bimte Me'at. Vayagor Sham, il a habité là-bas. Mais il n'est pas descendu pour devenir égyptien. Il est descendu temporairement jusqu'à la fin de la famine. C'est un galout. Ce galout, en fait, il est organisé par Hachem. C'est un galout, on pourrait dire aujourd'hui, on dirait, c'est un galout économique. Yaakov, c'est un migrant économique. Il est là en Égypte parce qu'il n'a pas à manger là où il est. Ensuite, Bimte Me'at, on était très peu nombreux. Combien ils étaient quand ils descendent? C'est la famille. Ils sont 70. Et puis, Ils sont devenus là-bas un très grand peuple, énorme, très très puissant, et comparable aux étoiles. Donc il y a eu une explosion démographique. En très peu de temps, on est passé de 70 personnes à des milliers, des myriades, des millions de personnes en réalité. C'est quoi ça? C'est complètement fou? Non, on est en période de grossesse. La grossesse, ça consiste à passer d'une cellule à un corps humain, à un corps complet. Quand vous avez cette multiplication, c'est normal. Dans la phase de grossesse, la croissance, elle n'a rien de commun avec la croissance d'après la grossesse. Si on continuait après la grossesse, enfin après la naissance, si on continuait avec la même croissance qu'avant, on serait tous des gratte-ciel. Bon. Et ensuite, effectivement, on est devenu ce peuple. Et les Bnei Israël, bon, d'abord, ils ont été effectivement réduits en esclavage par les Égyptiens. D'accord. Ils sont devenus un peuple. Ils étaient quand même, enfin pas vraiment un peuple, mais distingués, reconnaissables en Égypte. Ils sont devenus Gadol, Atsum. Donc c'est cette fameuse explosion démographique. Et le problème c'est, ils ont rempli l'Égypte. Vatimale à Aretzota. Yosef leur avait dit, vous allez à Goshen. Vous restez à Goshen. Goshen, c'est particulier. Parce que Goshen, c'est bien une province égyptienne. Mais vous vous souvenez, c'est la province que Paro a donnée en dédommagement à Sarah. Donc, d'une certaine manière, les Bnei Israël étaient en Égypte, mais dans une espèce d'enclave qui leur appartenait. Bon, bien sûr, ils ne pouvaient pas dire à Paro, on est chez nous, là, dégagez. Mais en fait, ils étaient vraiment chez eux. Et s'ils étaient restés là-bas, les choses auraient changé complètement. Mais maintenant, ils sont tellement nombreux, et l'enfant, il veut sortir du ventre de sa mère, en quelque sorte. Mais, en fait, ils sont vides, pas de projet. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de raison valable de les sortir d'Égypte. Quelque part, on n'a affaire qu'à de la matière quasiment, parce qu'il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de réflexion et donc aucune raison de les sortir de là-bas. Pour sortir, il faudrait avoir une connexion avec Hachem, quelque part. Alors Hachem va fabriquer la connexion. C'est pour ça qu'on dit que Pessah, c'est It Aruta de Leila. C'est l'éveil d'en haut. C'est ce que je vous ai dit. Hachem a dit à Abraham, c'est moi qui fais le travail. C'est mon travail. Donc, c'est moi qui gère. Vous avez une partie à faire, mais c'est moi le gestionnaire de toute cette affaire. C'est moi, j'interviens. Comment il intervient? Il va leur donner deux liens avec en haut, en quelque sorte. Deux liens qui vont permettre de justifier les sortir d'Égypte. Hachem a fait avec Abraham Avinu un brit, une alliance. Je vais revenir tout de suite sur ce que veut dire alliance. Mais là, il leur dit, on va faire une alliance qui va se marquer dans vos cœurs, dans vos corps. Donc, il leur donne la mitzvah de brit mila. L'alliance par la mila, par la circoncision. Et une deuxième mitzvah qui est Korban Pessah. En vérité, elles sont liées parce que pour pouvoir manger du Korban Pessah, il faut avoir fait la mila. Qu'est-ce que c'est Korban Pessah? Korban Pessah, c'est Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'on leur a demandé de faire? Vous allez prendre un animal qui est considéré comme un animal sacré en Égypte et vous allez ouvertement, vous allez annoncer que vous allez le manger, faire la shrita et vous allez le manger. Pour comprendre, il faut juste traduire. Traduire, je ne peux pas vous le traduire en sanskrit ou en hindou, je ne sais pas, mais remplacer l'agneau pascal par l'agneau en question, par les vaches sacrées de l'Inde et essayer de comprendre ce que ça veut dire. D'accord ? Vous prenez une vache, vous l'attachez au montant de votre lit, quand l'hindou de service il vous demande qu'est-ce que tu fais avec cette vache, je vais la manger. Je pense que vous n'aurez pas le temps de finir la phrase. Donc vous serez vraiment en haut. D'accord, c'est Messirut Nefesh, ça s'appelle. C'est une capacité de donner sa vie pour ça. Si vous êtes prêt à donner votre vie pour sortir d'Égypte, alors je vais vous sortir d'Égypte. Si vous n'êtes pas prêt, alors vous ne sortirez pas. Parce que la Torah, ce n'est pas simplement une vie à un niveau plus élevé. D'une certaine manière, quand on dit Messirut Nefesh, ça veut dire que tu vis à un niveau qui n'est pas vraiment compatible avec le monde dans lequel tu es. Le Korban Pessah, il n'est pas compatible avec la civilisation égyptienne. Donc, vivre selon la Torah, en réalité, c'est vivre d'une façon qui n'est pas vraiment compatible avec le monde. D'une façon, d'une certaine manière, on va couper la orla, c'est d'une certaine manière, c'est une mutilation, si on veut. Et puis ensuite, on tue l'animal sacré de l'Égypte. C'est vraiment pas compatible avec ce monde. On ne peut pas imaginer que les gens acceptent une chose pareille. Alors, le Brit, c'est quoi? Une alliance avec Hachem, en fait. C'est un lien. C'est un lien qui est tel que on peut considérer que si on touche un des éléments, ça revient à toucher l'autre aussi. Ils sont tellement lié, le Brit, c'est un tel lien que tu touches celui-là, c'est comme si tu touchais l'autre. Et ça, les alliés, en fait. L'alliance. L'alliance, c'est, voilà, c'est comme si on avait mis notre vie en commun. Si tu me touches, c'est comme si tu touchais l'autre. Alors, les Bnei Israël, ils sont entrés dans un Brit, c'est-à-dire c'est déjà Avraham Avinu qui est entré dans un tel Brit. Et donc, du coup, on comprend très bien que à la suite de ce Brit, Akadosh Baruch Hu intervient dans l'histoire dès lors que Israël est en position de ne pas pouvoir faire ce qu'il doit faire. Parce que toucher le clan Israël, c'est toucher Hachem, si on peut parler comme ça. Alors si on continue le texte dit « Vayotzienu Hachem » le deuxième pasuk. « Vayotzienu Hachem im Yisraim al-edé malach, lo al-edé malach, lo al-edé saraf, lo al-edé shaliach. » Et là, Akadosh Baruch Hu, Bichvodo Batzmo. Chez Neymar, C'est marqué dans le Passouk. Vavarti Beretz Mitzrayim, je passerai dans le pays d'Égypte. Balaïla Azé, cette nuit-là. Viketi, et je frapperai, je tuerai. Kol Bechor Beretz Mitzrayim. Tous les prorotes dans le pays d'Égypte. Mais Adam Vead Behema, dans le monde animal aussi. Et je tuerai aussi, je détruirai toutes les idoles égyptiennes. Voilà, ça c'est le verset. Et comme on l'a vu avant, on apprend ce verset, la première partie. Ve'avarti be'eretz Mitzrayim, ba'layla hazeh. C'est-à-dire, c'est la nuit de Makat Bechorot. Et Hachem dit, je vais passer par l'Égypte cette nuit-là. Et je vais, et c'est moi, je vais passer. Ve'avarti, ani velo malach. Moi et pas un malach. Et donc, je vais frapper tous les premiers nés d'Égypte. Ani velo saraf. Grol Elohim Mitzrayim et Seshvatim. Ani Hashem. Ani hu lo velo ashaliach. Ani Hashem. Ani hu velo acher. C'est énorme. Hachem dit, je vais frapper l'Égypte. Je vais frapper les premiers-nés de l'Égypte. Mais, en fait, les bnei Israël vont sortir d'Égypte. Mais ce ne sera pas avec un malach. Souvent, Hachem, quand il agit dans l'histoire, il peut très bien agir, par exemple, avec les lois naturelles. Il peut très bien sanctionner en appliquant des lois naturelles. Eh bien, Hachem dit, non, ce n'est pas comme ça que j'agirai. Je n'agirai pas non plus à Nivelo Saraf. Saraf, c'est Srefa, c'est le feu. C'est les séraphins, comme on dit. C'est le feu. C'est-à-dire, c'est pas par le feu que je vais détruire. Le feu, c'est la guerre, c'est la révolution. Bon. Ben, ce sera pas comme ça. C'est pas, il y aura pas des inondations, il y aura pas un tsunami, il y aura rien de tout ce qu'on peut imaginer. Il y aura pas de changement de dynastie, il y aura pas de révolution, donc il y aura pas de décolonisation. Rien. Aucun des processus qu'on connaît comme étant des processus de libération des peuples n'aura lieu à ce moment-là. Mais c'est moi, dit Hachem. Hachem lui-même, comment ça se présente? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, Hachem? Si c'est Hachem, donc ça va venir d'en haut. Et si vous écoutez bien le texte, le texte dit « Ve'iketi kol bechor be'eretz Mitzrayim ». Je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Vous entendez? Tous les premiers-nés. Tous les premiers-nés vont mourir. Les bnei Israël, ils ont aussi des premiers-nés. Ils sont aussi dans le pays d'Égypte. Ils devraient aussi mourir. Pourquoi est-ce qu'ils devraient mourir? Parce que cette mort, quand Hachem intervient, c'est, si vous voulez, c'est comme s'il y avait une lumière tellement forte que personne ne peut ne pas être aveuglé par cette lumière. Personne. Pas plus les Juifs que les autres. Les prorotes d'Israël aussi devaient mourir. Ils étaient en danger, c'est pour ça qu'il y a un Tanit Bechorot avant Pessah. Jeûne des premiers-nés. Parce que les premiers-nés des Bnei Israël aussi étaient en danger. Parce que c'est tellement fort, c'est simplement qu'on ne peut pas supporter le développement, le dévoilement d'Hachem. Et donc on meurt. Le Maharal dit, mais pourquoi il n'y a que les Bchorot qui meurent? Pourquoi tout le monde ne meurt pas? Alors le Maharal dit, je ne sais pas ce que ça veut dire, le Maharal dit que les Bchorot, ils ont une certaine sensibilité particulière. Peut-être parce qu'ils sont les premiers-nés, parce qu'ils ont dû ouvrir les voies, etc. Peut-être qu'ils ont eu un travail plus... Je sais pas, enfin, quelque chose qui les a rendus plus fragiles ou plus sensibles. Donc, eux, ils sont morts. Et les Bnei Israël, ils ne sont pas morts. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas morts? Ils ne sont pas morts parce que Akadosh Baruch Hu, d'une certaine façon, il a passé par-dessus les maisons des Bnei Israël. C'est-à-dire, en fait, il a fait un pas. Rachidi, c'est ça. Rachidi, Pesach, ça veut dire, c'est un pas, P-A-S. Rachid l'écrit d'ailleurs, P-A-S, K ou Q ou C, ce qui donnerait Pascal d'ailleurs. Pour lui, le pas, si vous regardez Rachid sur place, Rachid l'écrit que ça s'écrit comme si on écrivait P-A-S-C, Pasque. C'est un pas. Quand on fait un pas, ben voilà, ça donne de l'espace. D'accord? Entre le pied, un pied et l'autre, il y a de l'espace. C'est-à-dire que quand Hachem se manifeste, on est réduit à... On est complètement réduit à rien du tout, complètement étouffé. Hachem nous a donné de l'espace. Il a fait un pas. Ça fait partie du chesed d'Hachem. Hachem a sauvé il a protégé les Bnei Israël, les prorotes des Bnei Israël, qui autrement seraient morts aussi. Parce que personne ne peut supporter cette lumière. Jusqu'à Hachem a protégé, il a fabriqué de l'espace. Les prorotes ont pu respirer. Ils sont pas morts. Ce qu'il faut dire ici, c'est que les Égyptiens, ils sont en train de, dans ce processus-là, ils sont en train d'essayer d'empêcher le clan Israël d'émerger comme tel, de devenir le clan Israël, de l'empêcher d'exister. N'est-ce pas? N'oubliez pas que les Bnei Israël en Égypte, quand dans la Torah, on décrit comment Hachem a sorti les Bnei Israël d'Égypte, il les a pris goy mikarev goy. C'est-à-dire, il a pris un peuple du sein d'un autre peuple. Ce n'était pas une césarienne. Les Bnei Israël n'étaient pas séparés des Égyptiens. Ils étaient complètement englués dans la civilisation égyptienne. C'était totalement idolâtre. Il n'y avait rien pour les sortir de là. Et donc, ils sont égyptiens. 80% d'entre eux se considèrent comme égyptiens complètement. Ils ne voient pas du tout pourquoi ils feraient autre chose, pourquoi ils sortiraient d'Égypte. D'autant que maintenant, après les Makot, ils ne souffrent plus. Ils ne sont plus esclaves. Ouais, ils ont pensé, on va devenir des citoyens, je ne sais pas, peut-être pas de la crème de la crème, mais on sera des citoyens égyptiens. C'était ça qu'ils pensaient. Les Bnei Israël, quand ils étaient dans cet état d'esclavage, ils ont souffert. Et les autres les ont fait souffrir pour le plaisir de les faire souffrir, en quelque sorte. On les a fait travailler, Avodat Perech. Avodat Perech, ça veut dire on a fait faire aux hommes le travail des femmes et aux femmes le travail des hommes. C'est-à-dire, c'est tout à fait contre-productif. Mais ça, là, il fallait mettre les gens en situation de penser que voilà, je suis incapable de faire même le travail qui m'est demandé. Je peux pas faire. Je ne suis pas du tout. Il s'agissait de les casser. On ne peut pas avoir la satisfaction même d'un travail bien fait, même s'il est fait pour l'ennemi, mais même aucune satisfaction. On ne sait pas le faire. Et en plus, c'est tout à fait inutile, parce qu'ils ont construit Pithom et Ramsès. En fait, c'est une seule ville, mais c'est Sisyphe. C'est le mythe de Sisyphe. Ils construisent ici, mais ça se détruit de l'autre côté. C'est totalement inutile. Ça se passait dans les camps de concentration allemands aussi, c'était comme ça. Nazis, c'était comme ça aussi. Un jour, on devait transporter des charges énormes, des rochers du point A au point B, et demain, du point B au point A. Te montrer que tu ne sers à rien, c'est tout. Rien du tout. Alors, finalement, les Bnei Israël, ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus, alors ils ont Vanitzak El Hashem, Elokei Avotenu. On a crié vers Hashem, le Dieu de nos ancêtres. Là, tout à coup, là, maintenant, il y a un lien avec les ancêtres. Vaizaku, Vatal Shavatam, Ela Elokim, Mina Avoda. Ils ont crié. Le cri, c'est l'ancêtre de la prière. Et c'est monté vers Elohim, min ha'avoda, à partir du travail, c'est-à-dire dans des chantiers, quoi. Sur les chantiers, ils sont mis à prier. Et Hachem a écouté. Ah, c'est pas que normalement, tout à coup, avant, il était sourd. Non, c'est une image. Pour dire qu'Hachem a décidé de tenir compte de cela. Et de quoi est-ce qu'il tient vraiment compte à Kadosh Baruch Hu? Il tient compte de ce que, dans la démarche des Égyptiens, il y a en particulier une démarche pour empêcher les Bnei Israël d'avoir des enfants. D'accord? C'est-à-dire on va épuiser les hommes et on va même leur interdire de rentrer chez eux. Au point que les femmes, elles vont amener à manger à leur mari et ils vont avoir des rapports dans les remblais, en quelque sorte. Ils ne pouvaient pas avoir des rapports normaux à des endroits normaux. Les Égyptiens ne voulaient pas. Les femmes ont accepté de ces conditions-là. C'est ça les Nashim Tzadkaniot. Hachem a vu, il a considéré que ça c'était insupportable. Mais vous voyez, ce n'est pas la souffrance qui était insupportable pour Hachem. Ce qui est insupportable, c'est la démarche des Égyptiens qui veulent empêcher le plan d'Hachem de se réaliser. Hachem a écouté les Bnei Israël, mais il n'a pas entendu la même chose que ce que nous on aurait entendu. Empêcher son plan de se réaliser, là il intervient. Il écoute la prière des Bnei Israël. Alors, cette prière-là, c'est une prière particulière. C'est une prière très, très, dans ce qu'il faut dire, très, très puissante, qui vient vraiment de la situation dans laquelle ils étaient. Cette prière, elle a pour but de toucher le brit, toucher le niveau brit. Le niveau brit, c'est un niveau très très élevé, Il faut faire bouger là-haut. C'est ça qu'il fallait. Et donc, la particularité ici, c'est que les Bnei Israël ont été capables de prier à ce niveau-là. La prière, elle a un impact, mais toujours limité. Il y a des choses qu'on ne peut pas obtenir par la prière. La prière, par exemple, elle ne peut pas obtenir des miracles. Le miracle, c'est un autre monde. C'est pas un monde qu'on obtient. C'est pas des choses qu'on obtient par la prière. Là, ils ont mis en marche le Brit. Ils ont réussi à prier à ce niveau-là. Alors, je reprends le texte. Je n'ai pas suivi exactement le texte, là. Veiketi kol, j'ai frappé tous les premiers-nés, etc. C'est makat bechorot, effectivement. Encore une fois, le clan Israël touche le fond. Et du coup, Akadosh Baruch Hu intervient. Parce que sinon, il n'y a plus de clan Israël, finalement. Donc, le projet ne peut pas se réaliser. Et donc, c'est très important de nous dire comment Hachem intervient. Ça fait partie de ce fameux récit. Je vous dis, l'essentiel du récit, c'est le fait que Hachem intervient dans l'histoire. Et on nous dit maintenant ici comment il est intervenu dans l'histoire. Alors, il intervient, Biad Chazaka, Bizroan Touya, Mora, Moraim. Alors, Chazal disent, Yad Chazaka, c'est à Dever. Yad Chazaka, c'est la peste. Pourquoi c'est la peste? Là, juste pour donner un exemple de la Torah orale. D'accord? Dans le texte, c'est marqué Hachem intervient Yad Chazaka. Où on voit dans Yad Chazaka que c'est la peste. Qu'est-ce que vous proposez? Donc, je vais vous dire ce qu'on veut proposer. À un moment donné, les Khartoumim, les magiciens égyptiens, disent à Paro, là, maintenant, ce qu'il est en train de faire, ce type-là, ce Moshe, c'est plus de la magie. C'est pas de la magie, parce que nous, on est les spécialistes de la magie. Et ça, nous, on ne sait pas le faire. Il y a des règles, là, on ne peut pas faire la magie avec n'importe quoi. Disons que la magie, elle a besoin d'un certain volume. Et maintenant, là, ils sont en train de travailler sur des insectes qui n'ont pas le volume nécessaire. On peut pas faire de magie. Et donc, tu comprends que ce qu'on a devant nous, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Ça dépasse l'Égypte. Ça dépasse la civilisation égyptienne. Donc, tu dois céder. Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort que nous. Le Paro n'a pas cédé. Et comment est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à Paro, ils ont dit, là, c'est Etzba Elohim. C'est le doigt, l'index d'Elohim. C'est l'index de la... Là, c'est la divinité qui intervient, disent les magiciens à Paro. Donc, c'était une des plaies. Une plaie, c'est quelque chose qu'on peut montrer du doigt, un index. Marqué dans le Passouk, Hachem intervient Beyad Chazaka, avec une main forte. Alors, je sais que je parle devant quelques Tunisiens, mais il se trouve que pour tout le monde, une main, ça a cinq doigts. D'accord? La main, c'est cinq doigts. Or, la cinquième plaie, c'est des vers. D'accord? C'est comme ça que ça vient, des vers. Comme c'est marqué Yad, et Yad, c'est cinq, c'est la cinquième plaie, cinquième doigts, en fait, cinq doigts. C'est ça. Donc c'est la main droite, si vous voulez, la main forte, d'Hachem. C'est ça qui est à l'œuvre en réalité. Ensuite, Zroa Netuya. Zroa Netuya, c'est Acherev. C'est le glaive. Parce que le bras est tendu, c'est. Parce que c'est marqué Vecharbo Shlufa Biyado. Il y avait une épée dans sa main. Netuya à Yerushalayim. Donc ici, le dever, c'est une plaie intérieure. C'est Hachem frappe l'Égypte de l'intérieur. Le Kherev, c'est frapper l'Égypte de l'extérieur. Donc c'est un coup à droite, un coup à gauche. À droite, c'est de l'intérieur, à gauche, c'est de l'extérieur. Uvemora, par la crainte. C'est la crainte d'Hachem. Mora Gadol, c'est Gilui Shrina. Dévoilement de la présence divine. Et le verset qu'on donne pour indiquer le dévoilement de la présence divine, c'est la Kachatlo Goy Mikerev Goy. Avec Moftin, Otot, Moftim, Milchama, Yad Chazaka, Zroyan Tuya, Moraim Gdolim. Et ensuite, il y a une dracha sur, de nouveau sur Otot, etc. Mais ici, Gilu Shrina, c'est ce que je vous ai dit, le dévoilement d'Hachem. C'est-à-dire, ça va complètement anéantir l'Égypte. Hachem se dévoile, c'est une lumière tellement forte que l'Égypte, elle collapse, enfin, elle est réduite à rien. Et on va relire, et dans la fin du verset, c'est marqué que Hachem intervient, Beotot, Bemoftim. Alors, on dit Beotot, c'est Amaté. C'est les signes qu'il a fait avec le bâton. Les Makot, il les a fait avec le bâton. Et on dit aussi que les makotes, elles étaient inscrites sur le bâton. Est-ce qu'elles étaient inscrites explicitement, chacune d'entre elles, Dam, Tsfardea, etc. C'est une possibilité. On va voir tout de suite l'autre. Vetamate aze asher tika biyadecha asher tasebo et haotot. Moftim ze adam. Le moftim, c'est le dam. Et à ce moment-là, on dit, effectivement, il a frappé l'Égypte avec Dam, Ba'esh, le Timrot Hashan. Hachem a frappé l'Égypte avec le sang, avec le feu, et avec une colonne, avec une verticalité en quelque sorte. Cette verticalité, on la voit à la fin d'un feu. Vous avez une espèce de, il reste un filet de, je crois quoi, c'est qui est la dernière trace du feu, si vous voulez. Mais c'est l'important là-bas, c'est la verticalité. Le dam, il a eu lieu par changement. C'était l'eau qui a été changée en sang. L'eau représente la vie, en fait. Et donc, que la vie devienne le dam qui est la mort, c'est ça. Il a changé, les forces de vie sont devenues, ont disparu. C'est la mort. Et maintenant, si effectivement il restait sur la lancée, il pouvait rester de l'énergie, alors le feu va la détruire. Le feu, c'est la Midat Hadin. Et Timrot Hashan, c'est de nouveau cette colonne, cette verticalité-là. C'est la présence divine qui réduit tout, qui fait disparaître les choses. Après, il y a une autre lecture qui est construite sur le fait que dans le texte, dans le verset en question, on a ou bien Yatrazaka, c'est-à-dire deux mots, Zroanetouya, deux mots, deux, Moragadol, deux mots, et puis Otot, qui est un pluriel, qui vaut deux, et Moftim, qui est encore un pluriel, qui vaut deux. Donc on a cinq fois deux. Je compte sur vous. C'est un remez aux dix plaies. Et à ce moment-là, on dit, voilà, les dix plaies, c'est Dam, Tzfardea, etc., jusqu'à Makot Bechorot. Et Rabbi Yehuda, il donne des simanim. Pourquoi? Parce que il faut comprendre qu'il faut traiter les dix plaies comme étant 3 fois 3 plus 1. Des groupes de 3, et la dernière, c'est Makot Bechorot, c'est à part. Mais c'est 3 fois 3, et à chaque fois, c'est une manifestation plus puissante où Hachem dit, avec le premier groupe des 3 Makot, Ani Hachem. Le deuxième, c'est Ani Hachem Bekerev Haaretz. Le troisième, c'est En Kamoni Bechol Haaretz. Donc, je suis Hachem. Je suis Hachem et j'interviens dans ce monde, dans le monde sur la terre. Et puis, je suis aussi, rien n'est comparable. Michamocha Baelim Hachem. Personne n'est comparable. Et tout ça, c'est la Torah chez Valpé. Donc, vous voyez comment on travaille. Il faut être attentif à chacun des mots pour comprendre ce que Hachem intervient. Mais on ne va pas décrire avec d'énormes phrases. Écoute bien les mots. Compte les termes. De toutes les manières, il faut tout compter. La structure de la phrase. Le deux, il peut être avec deux mots ou bien il peut être un pluriel. Tout ça, c'est significatif. Tout est significatif. Arrive Rabbi Yossi, et Rabbi Yossi, il dit, mais le problème, les makot, c'était bien des histoires de doigts. On montrait chaque maka. Donc, il y avait 10 doigts, correspondent aux 10 doigts. Mais à la mer, c'est marqué qu'on était dans la main d'Hachem. C'est la main d'Hachem de nouveau. Et la main d'Hachem, c'est 5 fois les doigts. 5 doigts. Donc il y a un facteur 5 qu'il faut appliquer. Les makot qui nous sont décrites en Égypte, il y en avait 10. À la mer, il y avait des makot. On n'en a aucune. On n'en connaît aucune. Mais il y en avait 5 fois plus. Il y en avait 50. Et puis après, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, ils disent, mais si tu entends vraiment bien ce qui s'est passé, à partir du Passouk, Rabbi Eliezer dit, mais donc chacune des makot avait 4 aspects en quelque sorte. Donc chaque maka en Égypte, c'était 4 makot. Il y en avait 10, ça fait 40. Un facteur 5 pour passer à la mer, ça fait 200. Rabbi Akiva dit, mais le premier verset qui dit que c'est Charonaf, la colère d'Hachem. Faut aussi le compter. Les autres sont des expressions, des conséquences du Charonav, de la colère d'Hachem. Donc lui, il dit, il y en a 5. Donc, en Mitzrayim, il y avait 10 makot dont chaque maka avait, il fallait entendre 5 aspects de chaque maka. Donc en réalité, en Égypte, il y avait 50 makot. Et avec le facteur 5 pour passer de l'Égypte à la mer, ça fait 250. Bon, on va s'arrêter là.